Alors, j'ai reconnu dans votre intervention, je dirais, un langage très codé sociologiquement. Donc, j'ai envie de prendre soin de nos hôtes et de vous demander peut-être, pour certaines expressions, une traduction. Par exemple, quand vous parlez de processus de secondarisation des objets de savoir, est-ce que vous pourriez nous simplifier la tâche ? Qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'entends principalement ce qui est une des missions, j'oserais dire principale, mais ce n'est pas seulement une mission, mais c'est aussi un mode de fonctionnement principal de l'école, de la forme scolaire. C'est d'essayer de créer chez les élèves un rapport au monde, donc aux objets du monde, tout ce qui est extérieur à eux-mêmes, donc même aussi la vision de tout ce qui est des objets, que ce soit des expériences directes ou indirectes, par les savoirs, c'est-à-dire mettre à distance les expériences directes de tous les jours, donc le faire doit être séparé par rapport au moment de réflexion. Et c'est vraiment là la tâche principale de l'école qui a, je pense, émergé depuis le début de la forme scolaire, donc la fin du XVIIe siècle. C'est avec la forme de l'école républicaine que cette mission-là a été vraiment centrale, mise au centre des préoccupations des institutions. Par des raisons politiques aussi, évidemment, éducatives et morales, mais il s'agit là de quelque chose de contraignant, évidemment, mais de très important, puisque c'est grâce à ce processus de secondarisation qu'on peut accéder finalement à un processus d'émancipation intellectuelle, non seulement.
Donc j'entends qu'il y a là un apprentissage à l'abstraction, un apprentissage à la pensée, qui passe aussi par des étapes.
Par des étapes cognitives. Ce qui cache aussi des volets culturels, des volets sociaux, évidemment, est lié à la vision des objets du monde.
Merci beaucoup de cette traduction. Bien, à vous la parole. Qui veut le micro réagir par rapport à cet espace-temps intermédiaire qui nous a été décrit ? Par rapport à la spécificité qu'est ce micro-lycée tel qu'il nous a été décrit par Filippo Pironi.
Merci. Juste une question sur la forme par rapport à votre étude. Donc vous nous avez bien expliqué que c'est une thèse qui s'inscrit dans le cadre d'une recherche portant sur les sciences de l'éducation. J'ai bien compris votre objet d'étude, votre méthode, vos outils aussi. Peut-être j'ai loupé une phase de votre intervention, mais j'ai pas entendu parler de vos hypothèses de recherche. En fait, vous êtes parti dans quel état d'esprit avant une fois que vous êtes mis en relation avec monsieur de Saint-Denis, donc quel était votre état d'esprit et quelles ont été vos armes, en tout cas, pour affronter ce nouveau monde que j'imagine que vous découvriez, que vous avez découvert pour la première fois. Merci
de la question. le pari initial qui partait, bon, évidemment, pas seulement d'une intuition, mais d'un travail d'études aussi précédent à ma thèse, c'était dans tous les discours courants sur l'innovation scolaire qui sont de plus en plus prégnants aussi au niveau institutionnel, paradoxalement, parce qu'après il faut voir les moyens qui sont donnés pour innover. On parle toujours d'élèves à part, de structures à part, qu'il faut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de... Eh bien, peut-être j'ai vu le micro-lycée comme une occasion justement de pouvoir démontrer, non pas démontrer, parce qu'on n'est jamais dans une démonstration, heureusement, on n'est pas des scientifiques durs, mais plutôt on est dans le monde de l'interprétation, de pouvoir appréhender donc ce monde à part de l'école, non pas comme quelque chose justement d'extraordinaire, mais plutôt comme un laboratoire d'observation privilégiée des difficultés communes au reste du système scolaire, mais qui sont rendues plus visibles grâce au type de fonctionnement particulier de cette structure-là. Pour mes outils, il s'agit d'outils universitaires qui m'ont été appris, notamment par mon directeur des thèses et aussi par Stéphane Bonnery, qui fait partie aussi du laboratoire, et notamment cet intérêt pour les processus de décrochage. Peut-être c'est plus Stéphane Bonnery qui était le directeur de mon master, qui a beaucoup traité de la question très complexe de comment justement on peut appréhender ces mouvements qui doit être vu de manière synchronique et diachronique à la fois, qui va malheureusement, parce que sinon ce serait plus simple de simple cause conséquence, on aurait évidemment le recette adéquate.
Philippot, j'avais envie de te poser la question suivante dans ta recherche. Est-ce que tu as intégré la question de l'obligation de résultat dans le cadre de dispositifs ou de structures innovantes ? Je m'explique. La question des espaces intermédiaires, ok. Le travail sur l'estime de soi, le travail autour d'espaces libres, convivial, etc., etc. Moi, je suis confronté, je dis moi, mais je dis... Le lycée Magenta, où on a mis en place cette structure, et les deux autres lycées partenaires, on est fois confronté à ce travail sur l'estime de soi, sur la réconciliation des gens avec eux-mêmes, sur le deuil de leur échec scolaire, qu'ils trimballent avec eux de manière très, très lourde, sur ce fameux rapport à la norme par rapport à l'innovation qu'on leur propose, parce qu'ils le vivent comme un palliatif. Vous nous prenez pour des handicapés, hein, ou pour des malades mentaux. On n'est pas capable de refaire ce qu'on a échoué il y a 3-4 ans en arrière. Donc du coup, ça remet en question là aussi une tension entre l'innovation et le classicisme de la transmission des connaissances. Bon, nous on travaille en tension à la fois sur ça, mais à la fois aussi sur le fait que ces jeunes-là, nous avons contractualisé avec eux quelque part une obligation de les faire réussir. Un diplôme, une qualification et trouver un job. Donc est-ce que dans ta recherche, tu intègres aussi cette pression quelque part que nous avons, nous, les acteurs sur le terrain, les chefs d'établissement, moi, modeste chargé de mission, au service des chefs d'établissement, parce que il n'y a pas reconduction quelque part d'un process innovateur, d'une structure novatrice, comme micro-lycée, comme lycée de la nouvelle chance, ou comme toute autre initiative dont j'ai entendu parler avec beaucoup d'émotion. Quand j'entends le principal de Clémenceau qui fait du cousu-main avec une vingtaine de jeunes de troisième pour essayer de les amorcer sur une orientation professionnelle, etc. Bref, nous avons une obligation de résultat parce que moi, quand je demande à renouveler les moyens chaque année en poste, quand je fais une subvention, une demande de subvention à la région, quand je fais une demande de subvention au FSE pour l'innovation pédagogique, quand je fais une demande de rémunération pour nos stagiaires, si j'arrive pas avec 90% de réussite au baccalauréat professionnel, si j'arrive pas avec 90% dans les deux mois qui suivent leur sortie du dispositif, ils ont trouvé un CDD ou un CDI où ils poursuivent en BTS, voire en licence pro, eh bien, les opérateurs, et je peux les comprendre, ils s'y prennent à deux fois, voire trois fois, avant de me donner quitus pour reconduire. Donc la question de l'obligation de résultat est une tension permanente avec la question de l'innovation, de la socialisation et de l'humanisation des gens qui nous sont confiés.
Oui. Je ne sais pas si c'était vraiment une question. Si je la traite dans mon approche théorique, c'est un des côtés peut-être à développer, effectivement. On avait commencé à voir plusieurs tensions, donc plusieurs... espace de tension et de contraintes aussi dissymétriques pour les enseignants, ça c'est quelque chose qu'on avait commencé à voir. De ce point de vue, c'est vrai que l'aspect de la contractualisation éducative est quelque chose qu'on a commencé à voir aussi, notamment pour certains effets inattendus de responsabilisation directe des individus face à leurs pratiques, enseignants comme élèves, parce que une fois qu'on fait signer un contrat ou on se met d'accord pour un contrat avec l'élève, l'élève aussi s'engage en quelque sorte à réussir. Et donc évidemment il y a là, mais ça fait partie de tout ce tissage de relations horizontales, de finalement de d'arriver nu, sans l'institution derrière, d'avant nos propres pratiques et nos propres résultats, que ce soit mauvais ou des bons résultats. Donc c'est quelque chose, oui, en partie que j'avais commencé à voir, mais que cela mérite évidemment d'être approfondi du côté extérieur, donc de l'institution. Donc je vous remercie pour la question.
Pour rebondir sur la question de Christian, je ne suis pas sûr qu'on nous subissions la même pression. Est-ce que c'est lié à la différence entre vous qui êtes sur du professionnel et nous qui sommes sur du général et technologique? Mais voilà, à la naissance de la structure, oui, hein, la notion de résultat, et on va tuer celui du baccalauréat, ce qui est logique, enfin, c'est normal que l'on rende des comptes et on va tuer sur l'objectif diplômant. Hein, puisque c'est la propre du micro-lycée, tu le rappelais très bien, d'articuler hein, la rescolarisation et la préparation du diplôme. Après, une fois qu'on a prouvé la capacité A, j'ai plus l'impression que pour ce qui concerne les micro-lycées, on soit laissé dans une forme d'apesanteur liée à la confiance des acteurs, qu'à la demande de résultats renouvelés chaque année, comme toi, tu sembles la subir et peut-être la regretter, je ne sais pas. voilà, peut-être on n'a pas cette chance. Il est certain que si on avait 50% ou moins de 50% de résultats au baccalauréat, je pense que très rapidement, les services académiques nous interrogeraient sur la nécessité de renouveler les moyens. Hein. Voilà, c'est aussi parce qu'on maintient, on maintient ces résultats-là. Mais nous, on ne vit pas cette tension-là. Donc du coup, il est normal que Philippot l'intègre assez peu. D'autre part, c'est quoi réussir au micro-lycée?
Ouais, c'est ça.
Donc là, c'est une autre ouverture. Tu parles résultat au baccalauréat, oui, mais réussir au micro-lycée, ce n'est pas que ça. D'accord. Je me rappelle d'une élève qui nous a quittés en disant « Mais j'ai autant appris que je n'ai appris sur moi-même. » Voilà. Et donc là aussi, hein, bac ou pas bac, réussite ou pas réussite, sortie avec diplôme ou sans diplôme, il faudrait aussi avoir d'autres indicateurs que le baccalauréat comme élément de réussite.
Voilà, oui, on peut très bien, enfin j'imagine très bien qu'un élève puisse échouer au bac dans le micro-lycée, mais soit dans une réussite sur bien des points, et quid de cette évaluation, et quid de sa traçabilité, hein, qui est aussi important pour l'élève en chemin que pour son équipe enseignante.
C'est pour ça qu'il sera très, très important. On avait commencé à le faire, mais on n'a pas encore eu le temps de le faire, mais il faudra qu'on s'y mette. Entre les acteurs, donc les chercheurs, de trouver de nouveaux paramètres, de nouvelles modalités de haute évaluation, qui est un peu delà des paramètres traditionnels, qui sont bien sûr très importants, mais qui ne peuvent pas tout dire, bien au contraire.
Oui, moi ce qui me frappe dans les deux présentations, et surtout la première, c'est finalement toute l'importance de la part qui, par rapport à la dernière question, là, sur l'obligation de résultat, qui justement repose la question de qu'est-ce que c'est que réussir, et la part de cet accompagnement. Comme si finalement, il fallait être décrocheur, en grande difficulté, et raccroché pour bénéficier au sein de l'institution d'un accompagnement qui soit digne de ce nom. Comme s'il fallait être en grande difficulté pour enfin être considéré comme une personne complète, totale, et pas être réduite à une tête ou à une main qui sait faire. Et c'est quand même questionnant que ce soit, que ce soit pas davantage utilisé comme levier de manière générale, puisque l'obligation de résultat dans les établissements scolaires, on n'y arrive pas de toute façon. Les élèves sont en grande partie en échec. Et finalement, l'obligation scolaire de résultat s'appliquerait aux structures qui auraient pour mission de faire réussir ceux qui n'ont pas réussi ailleurs. Enfin, il y a une espèce de contradiction, et la conséquence, c'est que on peut pas faire sans l'humain. C'est étonnant.
Peut-être parce que c'est l'essentiel finalement. Et, en même temps, cette question de résultat, moi, j'aime bien rester dans les critères traditionnels et taper sur mes collègues sociologues. Parce que je trouve que l'innovation a trop tendance à aller vers justement uniquement l'estime de soi, la reconstruction, le projet, etc., etc. Je laisse ça évidemment à ceux qui ont la compétence. Et moi, j'aime bien être sur le quantitatif, parce que derrière, il y a du qualitatif. Et je pense qu'il faut que les structures expérimentales, il faut que l'innovation accepte aussi de passer sous la fourche caudine de la notion de résultat au sens le plus traditionnel du terme. Et j'aurais presque tendance à dire il faut surévaluer pour mieux évaluer, quoi. Alors par contre, évidemment, je vais complètement dans votre sens en regrettant. Mais en même temps, la réforme du lycée l'introduit, hein, en regrettant que les notions d'accompagnement ne soient pas encore, on va dire, évidemment, répandues pour tout le monde, tous les élèves. Mais c'est le problème du passage de l'objet élève à l'élève sujet. Et ça, c'est un peu complexe dans le système français de passer de l'un à l'autre. Mais je pense qu'on y viendra. Il faudra du temps, mais... on peut espérer, on peut lutter pour que ça se fasse. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque que vous avez faite.